Il est 8h. Et à la une, cette information Europe 1, l'ENA sera finalement supprimée. Emmanuel Macron va l'annoncer aujourd'hui après 2 ans d'hésitation sur le sort de cette école dont il est issu. Profil plus varié, adaptation à la réalité du terrain, la carrière des hauts fonctionnaires va aussi être réformée. Le débat sur l'euthanasie révèle les lacunes en matière de soins palliatifs. 1 hôpital sur 4 n'a pas d'unité de ce type. Et puis l'examen des consciences douloureux d'Alain Juppé. 27 ans après le génocide de Rwanda, lui qui était ministre des Affaires étrangères de la France reconnaît des erreurs, voire des fautes au nom de la vérité. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invitée, Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts. C'est un euphémisme de dire qu'elle est habituée des polémiques dont la dernière en date concerne une comparaison historique entre musulmans et juifs. Elle vient s'en expliquer. Rendez-vous 8h15.
C'est juste après ce journal. Il est 8h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Ça n'est pas une réunion d'anciens élèves de l'ENA et pourtant, des préfets et des ambassadeurs, des conseillers d'État et de la Cour des comptes, des directeurs d'administration centrale, tous en visio cet après-midi face au président de la République. Lui et une bonne partie d'entre eux étant issus de l'ENA, École Nationale d'Administration, dont il va annoncer la suppression, et c'est une information Europe 1.
Que vous nous livrez, Louis Dragnel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Chef adjoint du service politique d'Europe 1. Alors cette suppression de l'ENA, Emmanuel Macron l'avait promise après la crise des Gilets jaunes, puis il avait renoncé. Voilà qu'il rechange d'avis.
Oui absolument, donc l'ENA va être remplacée par une nouvelle école de la haute fonction publique. Emmanuel Macron souhaite ouvrir à de nouveaux candidats les grands corps d'État qui administrent aujourd'hui le pays, comme l'inspection des finances, le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Le chef de l'État veut attirer des profils plus variés venant des universités et plus uniquement de Sciences Po. Pour la formation, il doit aussi annoncer un tronc commun à tous les hauts fonctionnaires pour les confronter aux nouvelles réalités du terrain, laïcité, pauvreté, écologie, discours scientifique. Enfin, c'est un sujet très sensible. Emmanuel Macron va s'attaquer à la réforme des carrières en encourageant les mutations, en cassant les logiques de corps et de rente à vie. Et si cette réforme était adoptée avant la fin du quinquennat, eh bien, les hauts fonctionnaires seraient à l'avenir évalués de manière systématique et affectés à une mission en fonction de leur profil et des besoins de l'État et plus sur le seul critère de leur classement à la sortie de l'école. Et si ça ne convient pas, eh bien, on pourra leur proposer une rupture conventionnelle de leur contrat.
Une rupture conventionnelle de leur contrat. On entend, Louis, que c'est aussi toute la carrière des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui est concernée. Donc, on n'est pas là simplement sur un toilettage de la haute fonction publique.
Loin de là, Emmanuel Macron veut montrer aussi aux Français qu'il tire les premiers enseignements de la crise sanitaire et des dysfonctionnements qui ont été pointés du doigt. Il veut s'attaquer au mammouth d'une administration qu'il juge pas assez efficace, pas assez loyale, trop lente, trop puissante, trop endogène et surtout une administration qui, selon lui, prend trop peu de risques. Mais en réformant aujourd'hui l'ordonnance de 1945, conçue par le général de Gaulle qui souhaitait à l'époque constituer une nouvelle haute fonction publique pour relever le pays, eh bien Emmanuel Macron provoque une petite révolution. La situation n'a certes rien à voir avec l'après-guerre, mais le président veut créer le même électrochoc. Même si dans son entourage, on assure qu'il ne faut pas y voir un acte de défiance à l'égard des hauts fonctionnaires, eh bien cette réforme devrait quand même avoir lieu.
Est-ce une annonce qui peut vraiment être concrétisée ?
Écoutez, pour que cette réforme ait une chance d'être adoptée avant 2022, il faut qu'elle soit débattue au Parlement avant ce mois de juin. Et compte tenu de l'embouteillage législatif, une certitude, la fenêtre de tir est très étroite.
Les informations de Louis Dragnel. Les Européens, eux, n'ont pas trouvé leur fenêtre de tir pour parler d'une seule voix au sujet du vaccin AstraZeneca, comme l'implorait la commissaire européenne à la santé. Après le lien établi entre de rares caillots sanguins et ce vaccin, Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas le réservent au plus de 60 ans, tandis que France et Belgique l'autorisent dès 55 ans.
Une niche parlementaire pour examiner 2 propositions de loi aujourd'hui, la promotion des langues régionales et le droit à l'euthanasie. Nicolas Bétou nous rappelait le calendrier impossible pour un débat serein sur cette question.
Oui, et quand revient le sujet de l'euthanasie, des opposants en appellent aux soins palliatifs, mieux prendre en charge la douleur. Sauf qu'aujourd'hui, 1 hôpital sur 4 en France ne dispose pas de telle structure. Pierre Herbulot.
Rien dans l'Allier, le Jura ou encore l'Eure-et-Loire, un gigantesque désert médical de 26 départements. Pourtant, ces unités de soins palliatifs sont essentielles dans l'accompagnement des malades en fin de vie, explique le docteur Anne-Claire Courreau de l'hôpital de Bourges.
Au-delà de la souffrance physique, c'est aussi une unité de soins palliatifs à proposer une prise en charge même psychique, spirituelle, si j'ose dire, avec, je pense à une unité de soins palliatifs où je travaillais, où il y avait une violoncelliste qui pouvait venir, une socio-esthéticienne. Et globalement, ce qu'on ressent aussi, c'est que les patients devant la mort ont un sentiment de solitude et que c'est ce soin relationnel presque dans un cocon dont ils ont besoin.
À Bourges, il n'y a pas de service de soins palliatifs, ni d'ailleurs dans le reste du département du Cher. L'unité la plus proche est à 1h30 de route. Une inégalité des soins inacceptable pour Annie Delville. Elle est à la tête d'une association d'accompagnement des malades.
La médecine, elle est à plusieurs vitesses quand on parle de soins palliatifs, quoi. Mais bon, c'est une histoire de formation de médecin, c'est une histoire d'argent, inévitablement.
Justement, le gouvernement promet un budget renforcé, plus de formation et un accès simplifié au midazolam, un sédatif, dans son nouveau plan de développement des soins palliatifs.
Pierre Herbulot pour Europe 1. Perquisition hier à Paris au domicile du cuisinier Christophe Leroy. Il est soupçonné d'avoir organisé des repas clandestins malgré les restrictions sanitaires. Le chef avait démenti en parlant d'un énorme poisson d'avril qui avait marché. Et puis on vous a raconté aussi cette messe de Pâques dans une église parisienne, Saint-Eugène, où ni masque ni distanciation sociale n'étaient très apparents. L'archevêque de Paris ouvre une procédure canonique contre le curé.
Elle avait été fermée juste après l'assassinat de Samuel Paty. La mosquée de Pantin, en Seine-Saint-Denis, va rouvrir demain.
Oui, son recteur de l'époque avait partagé la vidéo d'un père de famille très virulent contre le professeur d'histoire géo. Le ministère de l'Intérieur donne son feu vert à une réouverture de la mosquée, satisfait des changements. Un nouveau recteur est arrivé que Théoman va la rencontrer pour Europe 1.
Tout est échangé maintenant.
Son prédécesseur refusait de passer la main, mais il a fini par céder. Demain, c'est bien Abdourahmane Dramé qui prendra les rênes d'une mosquée de Pantin refaçonnée. Le désormais nouveau recteur a donné des gages à la préfecture.
On a discuté longuement. Nous, on fait nos pratiques en respectant la loi républicaine, c'est normal. On vit sous la République, donc il faut qu'on respecte.
L'idée de caméra à l'intérieur du lieu de culte avait été évoquée, ce ne sera finalement pas le cas, mais un nouvel imam est arrivé.
C'est un jeune instruit, étudiant à la fac, c'est un imam qu'on connaît.
De quoi retrouver un peu de sérénité, espèrent les fidèles.
Oui, tout à fait.
Comme ce quinquagénaire heureux de pouvoir revenir prier.
Moi, je suis pour les imams de France, ceux qui sont formés à la laïcité.
Et justement, cette réouverture anticipée à 5 jours du ramadan, c'est peut-être aussi, dit cet autre, un signe de considération de la part des autorités.
C'est un bon geste, oui. Parce que quelqu'un qui a fait une bêtise, c'est lui qui paye. Pourquoi tu fais payer tout le monde?
Ça, les fidèles les plus impatients viendront dès aujourd'hui remettre leur mosquée en état.
Oui,
comme pour acter ce grand ménage au sens propre.
Reportage de Théo Manval. Joe Biden contre les armes fantômes. En réaction à plusieurs fusillades meurtrières, le président américain devrait annoncer aujourd'hui des décrets pour encadrer la vente de certains types d'armes à feu, notamment celles fabriquées de manière artisanale, sans numéro de série. Restons aux États-Unis avec un débat qui monte assez tendu sur le passeport vaccinal. Pour le moment, seule New York s'y est mise.
La plus grande ville des États-Unis où l'on rejoint notre correspondant Alexis Guilleux. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce passeport vient d'être lancé et il permet d'assister à des événements culturels ou sportifs.
Oui, comme par exemple le match de l'équipe de basket de Brooklyn hier soir. Cyril, téléphone en main, vient de franchir les barrières de sécurité.
And it's pretty straightforward and simple.
C'est assez simple à utiliser. Si ça me permet d'entrer quelque part, alors ça me va. Hier, j'ai téléchargé l'application, j'ai entré mes détails, on m'a demandé ma date de naissance, mais pas mon numéro de sécurité sociale. L'Excelsior Pass, c'est le nom de ce passeport new-yorkais, et c'est en fait un QR code qui résume votre statut vaccinal. Il n'est pas obligatoire. Pour le gouverneur de New York, c'est un outil supplémentaire pour lutter contre le virus et rouvrir l'économie en toute sécurité. David utilise le pass pour la première fois. Je suis absolument pour ce passeport. Vive le passeport vaccinal, comme ça je peux faire ce que je veux. Et concernant les risques pour ces données privées, on n'a plus de vie privée, on l'a perdue il y a 10 ans. Alors pour le moment, l'Excelsior Pass n'est pas encore très répandu, et sur ce sujet, New York fait même figure d'exception aux États-Unis. Les gouverneurs de Floride et du Texas ont déjà fait savoir qu'ils n'en voulaient pas. La Maison-Blanche a, elle, indiqué cette semaine ne pas souhaiter de certificat de vaccination au niveau fédéral.
Merci Alexis Guilleux en ligne de New York pour Europe 1.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Il parle de lâcheté internationale. Alain Juppé qui reconnaît les insuffisances de la diplomatie française face au génocide au Rwanda. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h10. La suite du journal, François Geffrier.
C'était il y a 27 ans, le début du génocide des Tutsis au Rwanda. Un terrible anniversaire marqué par ce long texte d'Alain Juppé, très personnel et en forme de mea culpa, une tribune parue dans le journal Le Monde. Lui qui était à l'époque ministre français des Affaires étrangères.
Bonjour Didier François.
Bonjour.
Alain Juppé reconnaît que les autorités françaises n'avaient pas pris toute la mesure de ce crime contre l'humanité.
Oui, et c'est d'ailleurs le travail de recherche extrêmement minutieux remis au président de la République le mois dernier par 14 historiens qui a permis cette prise de conscience, car c'est à la lecture de ce rapport qu'Alain Juppé a réalisé combien nous n'avons pas assez accompli au Rwanda. En tout cas, ce qu'il écrit, le drame étant, précise-t-il que nous n'avons pas compris qu'un génocide ne pouvait pas supporter les demi-mesures. Ce sont ces mots, et le jugement est dur. Hein. Pendant près de 30 ans, j'ai porté cette blessure de n'avoir pas réussi à empêcher cette terreur, confie l'ancien ministre, qui a l'élégance de rappeler qu'en revanche, sur le terrain, nos soldats ont compris bien plus vite que beaucoup de politiques qu'il y avait d'un côté les tueurs, les Hutus extrémistes, et de l'autre, les survivants, ces derniers Tutsis qu'il fallait protéger coûte que coûte. C'est d'ailleurs ce que confirme au micro d'Europe 1 le général Jean-Claude Lafourcade, commandant l'opération turquoise déclenchée 3 mois après le début des massacres, pour enfin tenter de sauver les ultimes rescapés.
Le génocide, on a été les premiers, la France, à le dénoncer. Et nous, les militaires, quand on arrive, pour faire au plus pressé, hein, pour sauver ceux qui peuvent l'être, arrêter les massacres, j'étais un peu en cours. Il n'y avait pas d'ambiguïté, on sauvait les Tutsis. Donc, les massacreurs étaient des Hutus quand on est arrivé au Rwanda.
Alors, pourtant, Didier, ce génocide a été mené de manière tout à fait publique et la communauté internationale n'a pas réagi.
Absolument. C'est également ce que rappelle Alain Juppé. Hein, cette cécité politique face au génocide n'est pas le seul fait de la France. Il qualifie d'ailleurs de lâcheté internationale l'abandon de la capitale Kigali par les forces de l'ONU sur décision du Conseil de sécurité, et cela dès le début des massacres en avril 1994. C'est ce départ précipité des casques bleus qui laisse libre cours à la folie meurtrière des miliciens Hutus. Écoutez ce témoignage absolument poignant de cette survivante, Jeanne, qui à l'époque n'avait que 17 ans.
Quand ils sont partis en évacuant tous les Occidentaux qu'ils avaient été chercher dans les quartiers de Kigali. Ils peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas qu'ils ont sous-estimé. Il y avait des corps dans Kigali. Il y avait les corps des nôtres. Derrière ces corps, c'était nos parents, nos voisins, nos amis. J'ai perdu mes parents, mes deux sœurs. On était une fratrie de 5, ma nièce, mes cousins, mes tantes. Et du jour au lendemain, on se rend compte que c'est ça le génocide, c'est que bah, ça, s'il y a un vide, il y a qu'un silence qui reste et un vide abyssal autour de soi.
Oui, il faut bien réaliser hein, l'ampleur de ce crime. Près d'un million de victimes Tutsis, mais également des Hutus démocrates qui tentaient de protéger leurs voisins. Et cela, en à peine 3 mois, un nettoyage ethnique souvent exécuté à la sagaie, à la machette, des moyens certes primitifs, mais l'intention génocidaire ne faisait aucun doute. Ce massacre de masse avait été soigneusement planifié par les franges les plus radicales d'un gouvernement rwandais, malheureusement soutenu par la France. Sur ce point, les 14 historiens de la commission d'enquête nommée par le président Macron sont unanimes. Ils ont eu accès aux comptes rendus les plus confidentiels des armées, des affaires étrangères et même des renseignements qui décrivent ces listes de Tutsis à éliminer qu'avaient dressées les bourgmestres dans le moindre village et jusque dans les régions les plus reculées. Les signaux étaient donc d'un rouge écarlate. L'Élysée était parfaitement informée et c'est François Mitterrand qui a fait sciemment le choix politique de ne pas tenir compte des mises en garde de ses services.
Didier François, spécialiste des questions internationales et stratégiques à Europe 1. Merci Didier, ce dossier réalisé avec le concours de Nicolas Feldman.
L'actualité sportive, le tournoi de tennis de Roland-Garros aura lieu du 30 mai au 13 juin, une semaine plus tard que prévu, pour tenter d'accueillir plus de spectateurs, et ce sera à vivre sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et puis en football, le PSG a eu de la réussite, de l'aveu même de son entraîneur Mauricio Pochettino. Victoire 3-2 sur le terrain du Bayern en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Mbappé, Neymar et le gardien parisien Navas ont fait un très grand match.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h14 et dans un instant, Sonia Mabrouk et son invitée, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h17 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa.
Bonjour.
Bienvenue à vous et bonjour. Esther Benbassa, merci d'être avec nous. Le projet de loi contre le séparatisme est examiné au Sénat depuis le 30 mars. La droite sénatoriale a durci le texte. Nous allons y revenir. Mais tout d'abord, pourquoi parlez-vous, je vous cite, d'un acharnement contre les musulmans ?
Je parle de cet acharnement parce que ce texte est quand même très liberticide. Moi, je suis pour la laïcité libérale, telle qu'elle avait été conçue par Aristide Briand et d'autres personnes, d'autres politiques qui ont choisi une version, incluante. Elle incluait tous les croyants en leur disant « il y a des limites, il ne faut pas les dépasser ». Alors moi, je ne suis pas pour la réécriture de la laïcité, de la loi de 1905. Et je trouve que ce texte réécrit la loi de 1905. Et en plus, je vais vous dire, met les cultes sous pression. Moi, j'ai reçu du courrier de l'évêque de Reims, des protestants qui disent, on est mis sous tutelle. Et les conséquences seront difficiles pour nous aussi, et pas seulement pour les musulmans.
Vous êtes historienne, Esther Benbassa, donc attachée aux faits. Quand vous dites liberticide, en particulier pour les musulmans, pouvez-vous nous citer une phrase dans le texte, une disposition qui symboliserait cet aspect liberticide ou cet acharnement que vous dénoncez contre la population française musulmane ?
D'abord, je vous citerai une phrase qui est dans l'exposé des motifs de ce texte. On commence comme ça, je vous cite, « Un entrisme communautariste, insidieux mais puissant, gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Cet entrisme est pour l'essentiel d'inspiration islamiste. » Moi, j'aurais
islamiste.
Fait...
Quel rapprochement avec les musulmans ? Ça n'a rien à voir ?
Oui, enfin, islamiste, islam, islamiste,
Sinon, à les confondre.
Et oui.
Mais qui les confond alors ?
Non, écoutez, dans l'esprit de la population...
Ah bon ? Dans l'esprit des Français, il y a une confusion ?
Il y a, oui, bien sûr qu'il
y a un
amalgame.
Entre les islamistes et les musulmans, un amalgame ?
Non, mais cette phrase avec... communautarisme insidieux, gangrène, qui vient après
mais
ce qu'a dit
les islamistes,
Madame
la sénatrice.
Madame Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, qui a parlé de l'islamo-gauchisme qui gangrène la recherche, l'université. Là, on est dans cette gangrène, ces mots.
Madame Benbassa, soyons précis, parce que je disais, en tant qu'historienne, vous êtes attachée aux faits. Cette phrase, moi, je la reprends, c'est dans le préambule, un entrisme communautariste d'essence islamiste. En quoi cela vise la majorité des Français musulmans ? Et heureusement qu'ils vivent leur foi de manière extrêmement apaisée.
J'espère qu'ils pourront, après ces débats, vivre encore leur islam tranquillement, comme la majorité le fait. Personne ne défend l'islamisme. Moi, je serai la dernière. Le terrorisme, nous voulons tous combattre le terrorisme, ça va de soi. Mais là, il y a un glissement,
glissement
qui est problématique.
Comment peut-on comparer, comme vous le faites, la situation des musulmans de France aujourd'hui à celle des juifs sous Vichy ?
Je n'ai jamais utilisé ce mot Vichy, je suis consciente, je suis historienne, je suis juive moi-même et non pratiquante, je n'ai jamais comparé à Vichy. Jamais. Sauf que Vichy est retenu par tout le monde, puisque on réduit les Juifs à ce qui s'est passé lors de l'avènement du gouvernement vichiste et la suite. Vous savez, ça a été un long cours d'acharnement sur les Juifs depuis le XVIIIe siècle.
On sait, Madame la sénatrice,
Mais vous le savez.
C'est bien de le rappeler.
Je suis très contente.
Mais est-ce que vous vous souvenez qu'en novembre 2003, aux côtés de Tariq Ramadan, en plein débat à l'époque sur le texte autour des signes religieux, vous expliquiez, devant un public, que la France traitait les musulmans comme elle avait traité les juifs sous Vichy. Vous vous souvenez de cela ?
Et je ne me souviens pas de ça du tout.
Vous n'étiez pas aux côtés de Tariq Ramadan
à ce moment-là. En 2003, chère madame, à la suite de ce forum, c'est moi-même qui ai écrit un article dans Le Monde parlant de Tariq Ramadan lorsque les médias se l'arrachaient. Et c'est là que j'ai cet article est disponible.
Je l'ai. Et voilà ce que vous dites. Vous dites je n'étais pas au nombre de ces détracteurs parlant de Tariq Ramadan. Je l'avais défendu à diverses reprises et avais même envisagé d'accueillir un livre de lui dans la collection que je dirige. Vous avez péché par naïveté à ce moment-là ?
Non, vous lisez la suite ? Il faut lire la suite. Et je dis que c'est un prêcheur, que ce n'est pas un philosophe, et que son islam n'est pas libéral, et que Tariq Ramadan aurait pu être une tête pensante de l'islam européen, et qu'il ne le sera pas. Parce que même en parlant du régime en Turquie, et c'était en 2003, il disait que c'était un régime ouvert, libéral, et d'ailleurs en France, on l'appelait nationalo, c'était... Erdogan était un islamo-nationaliste.
Mais est-ce que vous avez, Esther Benbassa, péché aussi par naïveté lorsque vous aviez participé à la marche contre l'islamophobie avec le CCIF aujourd'hui dissous ? Avez-vous péché par naïveté lorsque vous avez participé à la marche des indigènes de la République également ?
Non, je vais participer à la marche des indigènes. Je ne sais pas qui sont les indigènes. Je ne les ai jamais fréquentés, madame. Et je les ai toujours... Je les ai toujours combattus. Je les ai toujours
combattus.
Vous n'avez
pas participé à une marche où il y avait les indigènes de la République,
ni les CCIF. Moi, je me souviens de la marche du 30 novembre. Je crois que c'est 30 novembre, si ma mémoire est bonne. Le 30 novembre, je n'ai pas péché, je n'ai pas le sens du péché.
Vous devez vous souvenir, il y avait une photo où vous...
Oui.
Où vous posiez avec un enfant, notamment arborant une étoile
famille,
jaune.
Une famille
et un
qui
enfant,
avait un enfant.
Malheureusement, avec
oui,
une étoile jaune.
Oui, et j'avais le dos tourné. Quand on se prend en photo, on a le dos tourné. On n'a pas les yeux sur le manteau des gens.
Parfois, il vaut mieux avoir des yeux dans le dos hein, quand on voit cela.
Oui, mais la photo, ce n'est pas moi qui me l'ai prise. On me l'a prise, je n'ai pas vu. Et je trouve que cet autocollant était malvenu. Je ne le défends pas. Je ne l'ai pas vu, mais à culpa. La photo est partie et je n'en suis pas responsable.
Mais
c'est
si
tout. On a fait de ça une polémique vaine. Parce que, écoutez, d'abord, on ne va pas expliquer tout ça.
Non,
ça n'a plus aucun
avançons,
sens.
Avançons, puisque
oui,
vous voulez être clair sur ce sujet, j'imagine.
Je n'ai pas péché en allant à cette manifestation. Je n'étais pas la seule venant de la gauche qui a participé à cette manifestation.
Ce n'est pas parce qu'on est plus nombreux que c'est moins grave, madame la sénatrice.
Oui, d'accord, je le sais bien. Enfin, je n'ai pas dit que...
Non, mais
c'est parce
avançons.
Qu'il y avait un an. Écoutez,
si vous affirmez...
suis du côté des personnes qui sont maltraitées, qui sont minoritaires.
Mais qui sont-ils ?
Pardon ?
Qui sont-ils ?
Qui sont-ils?
Qui sont-elles?
Vous aviez des nombreuses
qui est
familles
maltraitées aujourd'hui dans
musulmanes.
Notre pays. Les musulmans sont maltraités en France aujourd'hui?
Je ne dis pas maltraités. Ils ne réussissent pas à remonter dans l'ascenseur, de monter dans l'ascenseur pour aller plus loin. Ce sont des gens qui ont une histoire qui fait que leur immigration est tardive, aussi bien pour la religion, ils ne sont pas passés par le concordat.
Restons sur la religion et sur la dénonciation de l'islam politique et radical. Est-ce que vous êtes celle qui, lors de l'attentat contre la rédaction de Charlie, avait dit oui, soutien à Charlie, et vous aviez ajouté un mais ? Est-ce que ce n'est pas du relativisme ?
Je ne relativise pas, c'est grave. Ce qui s'est passé est très très grave même. Je suis une personne quand même libérale au sens américain. Je suis une cosmopolite. Je n'ai pas à me justifier ici. Bien sûr, il faut prendre les choses pas d'une manière frontale. Il faut réfléchir. En France aujourd'hui, la situation des musulmans n'est pas au top, ça
un
vous
exemple,
le savez.
Un exemple, si vous êtes au clair comme vous le dites sur ces sujets,
oui.
J'imagine que vous auriez refusé une subvention dans le cadre de la construction de la mosquée de Strasbourg à une association qui réfute l'égalité femmes-hommes, qui est accusée d'être un vecteur d'influence du pouvoir turc et qui refuse de signer la charte des principes de l'islam de France.
D'abord, je ne suis pas sous le régime
ne
du
me
concordat.
Faites pas de la langue de bois.
Non, mais, madame,
vous l'auriez refusé
non,
ou accepté
mais, écoutez,
une association
madame,
qui refuse de signer une charte
madame,
qui
écoutez,
réfute l'égalité femmes-hommes.
Il y a un contexte.
Toujours un contexte.
Non, mais attendez. L'Alsace-Moselle est en régime concordataire. Toutes les religions sont aidées par les pouvoirs publics.
Cette association est-elle dans le champ républicain?
Laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est le concordat, il faut que vos auditeurs le sachent. En métropole, par exemple, on ne donne pas de l'argent, on ne subventionne pas une association religieuse parce qu'on n'a pas le droit. Tandis qu'en Alsace-Moselle, les rabbins, les imams, etc. sont payés.
Il n'y a pas d'obligation, alors, il y a une possibilité. Est-ce que vous auriez accordé une subvention
écoutez-moi,
à cette association ?
Connaissant la Turquie, connaissant cette association,
vous la connaissez ?
Connaissant Erdogan, elle la connaît, mais écoutez, je m'en renseigne, je ne suis pas une ignorante. Je ne suis pas enfermée dans une bulle.
Et donc, vous aurez accordé une subvention ?
J'aurais peut-être réfléchi autrement. Mais cette femme, ce qu'elle a fait, elle l'a fait à la suite de son prédécesseur qui l'avait fait. Ce monsieur Sarıkır
avait été reçu
par monsieur Macron dans le cadre de...
Vous connaissant les liens de cette association avec le pouvoir d'Ankara, une association qui réfute l'égalité femmes-hommes, je vous pose de nouveau la question, je ne vous demande pas le contexte. Est-ce que vous auriez accordé cette subvention ?
Mais enfin, je ne suis pas en concordat, sous le régime de concordat. Mais madame, vous ne voulez pas être claire avec vos auditeurs. Le concordat, c'est une chose, et ce que notre régime à nous, c'est un autre. Nous, en France, métropolitaine, nous ne subventionnons pas les associations religieuses. Ce monsieur était au CFCM, secrétaire général. Il a été subventionné par le ministère de l'Intérieur.
Vous ne voulez pas répondre, donc on va conclure, madame Benbassa. Qu'auriez-vous fait à la place de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'est retrouvée humiliée, debout, alors que le président du Conseil européen, Charles Michel, et surtout le président turc Erdogan, se calent dans les deux fauteuils préparés pour la réunion ?
Écoutez, monsieur Erdogan, je ne suis pas son soutien, je vais vous dire, je suis plutôt une personne qui critique le régime en Turquie, qui critique Erdogan et qui l'a fait bien avant beaucoup
vous
de...
Vous êtes une visionnaire, alors on ne l'a pas remarqué.
Je n'ai pas dit que je suis visionnaire, je suis historienne, je connais le pays, je suis la presse turque et je lis et je sais ce qui se passe. Excusez-moi, l'Europe a quand même négocié ses migrants avec ses réfugiés, avec monsieur Erdogan.
Merci Esther Benbassa, en tous les cas, d'avoir répondu aux questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.
Je suis venue pour ça.
J'ai bien compris. Bonne
journée. Merci de m'avoir reçu.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h29. Vous restez bien sûr Europe 1 dans quelques secondes. Un nouveau point sur l'info avec Marion Calais avant la météo de Laurent Cabrol. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, l'heure d'un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Enfoncer le clou mardi prochain au Parc des Princes, l'objectif désormais du PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens qui ont pris l'avantage hier soir face au Bayern Munich. Victoire 3-2, doublé de Mbappé, 2 passes décisives de Neymar, 10 arrêts du gardien Navas. Cyril de la Morinerie, ce PSG-là semble bien parti pour atteindre les demi-finales.
Oui, aussitôt arrivé au vestiaire, Kylian Mbappé s'est projeté vers le match retour. On attaquera cette rencontre au Parc des Princes avec la même détermination, a expliqué le héros de la soirée. Bien sûr, les Parisiens ont souffert hier soir, mais ils ont défendu en équipe, faisant preuve de solidarité, ce qui donne beaucoup d'espoir à l'ancien joueur parisien, Laurent Fournier.
Le talent, on sait que les Neymar, les Mbappé, ils l'ont. Maintenant, il faut garder cet état d'esprit. Il faut refaire encore les mêmes 90 minutes au Parc.
Paris, qui est invaincu face au club bavarois au Parc des Princes, devrait récupérer son talentueux milieu italien Marco Verratti. Et le Bayern Munich, lui, sera toujours privé de son attaquant vedette Lewandowski. Méfiance tout de même, le tenant du titre reste une redoutable machine, prévient l'ancien joueur du Bayern Munich, Gernot Rohr.
Le jeu collectif du Bayern pourra mettre quand même le Parisien en difficulté lors du match retour. Aujourd'hui, il a manqué un peu l'efficacité, qui souvent est du côté du Bayern. Mais dans quelques jours, ça peut être différent.
Pourtant, les statistiques sont toutes en faveur du PSG. D'ailleurs, depuis 2014, à chaque fois que le Bayern perd à domicile en Ligue des Champions, c'est face au futur vainqueur.
95% de chances de se qualifier pour le PSG. Match retour donc mardi prochain. Promise après le mouvement des Gilets jaunes, puis abandonné le retour de la suppression de l'ENA, information Europe 1. Emmanuel Macron va l'annoncer aujourd'hui dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique. L'évolution des carrières des hauts fonctionnaires devrait aussi être modifiée avec notamment une évaluation systématique. Réaction en ordre dispersé à travers l'Europe après les conclusions de l'Agence européenne du médicament sur le vaccin AstraZeneca. AstraZeneca et ses liens avec de rares cas de thrombose. Injection limitée aux plus de 60 ans pour l'Italie et l'Espagne, aux plus de 55 ans pour la Belgique, seuil déjà fixé par la France. L'Europe appelle les 27 à parler d'une même voix pour ne pas nourrir la défiance. En Polynésie, un premier mois sans décès lié au Covid, fermeture des frontières et quarantaine semblent avoir porté leurs fruits dans cette collectivité qui affichait en novembre dernier l'un des plus hauts taux d'incidence du monde. Nouveau débat sur la fin de vie à l'Assemblée. 5 ans après l'autorisation de la sédation profonde et continue, une proposition de loi vise aujourd'hui à autoriser l'euthanasie pour les malades atteints de maladies incurables. Un texte qui divise jusqu'au sein du gouvernement, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, il y a d'un côté cette ministre qui confie « J'ai promis à mon père de l'accompagner, il faut aller plus loin ». Aller plus loin, compléter la loi, c'est la volonté de plusieurs membres du gouvernement. Certains ont pris position publiquement, Emmanuel Wargon, Éric Dupond-Moretti. D'autres préfèrent réserver leur réponse, car le texte d'Olivier Falorni ne traite qu'un bout du sujet, selon un ministre. Le secrétaire d'État à l'Europe, Clément Beaune, se montre ainsi réticent. Olivier Véran affirme de son côté que la loi Clay-Leonetti n'est pas encore assez connue et appliquée. Beaucoup réclament par ailleurs un réel débat parlementaire et citoyen, alors que les discussions aujourd'hui ne dureront que quelques heures. Consacrer aussi peu de temps à ce sujet, alors que le projet présidentiel était de s'adapter aux évolutions de l'époque, ça n'est pas un bon signal, regrette une ministre issue de la gauche. À l'Élysée comme à Matignon, on évite de prendre position. L'exécutif émettra un avis de sagesse, une pratique utilisée pour ne pas trancher. D'autant que c'est probablement la droite qui permettra au gouvernement d'esquiver un éventuel piège politique. L'avalanche d'amendements déposés par 5 députés LR anti-euthanasie devrait de toute façon compromettre l'adoption du texte d'ici ce soir.
Jean-Rémy Baudeau. Et puis c'est le monde des transports qui change. Total annonce avoir entamé la production en France des carburants d'aviation à partir d'huile de cuisson usagée, des biocarburants qui seront proposés aux aéroports dès ce mois-ci et produits sur les sites de la Med dans les Bouches-du-Rhône et d'Oudal en Seine-Maritime.
Merci Marion Calais. J'en profite, Jimmy Mohamed s'est déjà installé dans le studio. Vous voyez que l'huile de friture, c'était bien? Je vous l'avais dit.
J'ai vu votre œil, je me suis dit, ça, c'est un truc.
Merci Marion Calais. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Allez, vous le savez, le froid s'en va, j'en ai parlé depuis ce matin, j'en parle, il a fait encore très froid hein, ce matin, entre moins 6 et 5 degrés. Nous allons maintenant vers des températures beaucoup plus agréables puisque la masse d'air vient d'Espagne, elle aura l'accent espagnol et nous aurons des températures de 10 degrés à Cherbourg, 11 à Lille cet après-midi, 12 à Caen, 13 à Paris, 14 à Rennes, 15 à Lyon et à Chinon, 16 à Marseille, 17 à Niort, 19 à Toulouse et Eus, une petite commune près de Prades dans les Pyrénées-Orientales, un village magnifique, 20 degrés à Bordeaux et 22 à Biarritz. Le soleil sera là sur une grande partie de la France, même si le ciel n'est pas limpide, et nous aurons par ailleurs tout au long de la journée l'impression d'un petit printemps qui se profile. Ça ne durera pas demain, ça sera encore un petit peu agréable, avec encore des éclaircies, mais samedi et dimanche seront des journées particulièrement pluvieuses.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Est-ce que quelqu'un veut bien sortir Marion Calais de ce studio, s'il vous plaît? Depuis 7h ce matin, elle cherche comment on dit remontada en allemand. Pas dans ce studio. Vous allez faire ça à votre poste, Marion. Merci beaucoup. 8h36.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un instant, il est là, notre santé, avec le docteur Jimmy Mohamed.
Pour sortir de la morosité ambiante, je vais vous parler du pouvoir extraordinaire de la musique sur nos émotions.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe. Bonjour docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu.
Je vous le dis formellement, il est médecin, voilà, c'est bonjour docteur quand même le matin. Alors Jimmy, nous allons parler ce matin de musique et plus particulièrement du pouvoir de la musique sur nos émotions.
Exactement. On le sait, la musique, elle nous accompagne dans de nombreuses situations de la vie quotidienne et on l'utilise de façon intuitive, notamment pour réguler nos émotions, mais aussi notre état affectif. On sait, elle peut être utile pour augmenter la concentration, mais aussi la résistance à l'effort ou même diminuer la sensation de douleur. C'est presque comme du dopage. D'ailleurs, c'est interdit de faire un marathon en écoutant de la musique. Alors, le pouvoir de la musique, c'est pas seulement quelque chose de psychologique. Il va se passer dans votre cerveau de véritables modifications biochimiques et même parfois provoquer des émotions fortes ou même involontaires. Vous allez avoir la chair de poule, des frissons dans le dos, le cœur qui s'accélère lorsque vous écoutez de la musique. Et d'ailleurs, cette sensibilité à la musique, elle ne serait pas innée. Elle débuterait dans l'enfance grâce à des situations qu'on a pu vivre de façon agréable, comme les comptines que nos parents nous chantaient, qui nous provoquent du bonheur, bonheur qu'on va retrouver en écoutant certains morceaux de musique.
Il existerait donc, si je vous suis bien, une forme d'universalité des émotions en fonction d'une chanson ?
Exactement, c'est ce que des chercheurs ont voulu prouver en faisant écouter après près de 3000 personnes d'origines différentes plusieurs morceaux de musique pour savoir si une chanson provoquait, quelle que soit la nationalité, toujours les mêmes émotions. Et ils ont réussi à créer une forme de carte audio des émotions avec des milliers de morceaux qui correspondent à des émotions comme la joie, la tristesse, le désir, l'agacement, l'indifférence. Et donc, finalement, il y a une cartographie des émotions. Et on va faire un petit test, on va voir Mathieu, si vous aussi vous ressentez les mêmes émotions avec ce premier
titre. J'ai peur. Ah oui, j'adore.
Donc là, quand vous avez ça, vous vous ressentez
joyeux, content, excité, énergique.
L'excitation, l'énergie, exactement. C'est ce que le panel a répondu. Donc finalement, il se passe quelque chose. On va faire un deuxième test.
C'est pas Michael Jackson, c'est la version du groupe de punk rock américain, ça, non?
C'est la reprise.
Alien and Form, on me le souffle.
Deuxième extrait, Mathieu, on va voir si vous aussi vous ressentez la même chose. Et là.
Vous voulez un drink, Jimmy?
Eh ben exactement. Le panel a répondu du romantisme, de la tendresse, voire même de l'excitation. Ça veut dire qu'on ressent tous la même chose.
Ah, ça, c'est l'effet de George Michael.
Exactement. Dernier extrait, Mathieu, il est pour vous. Alors, il n'est pas dans l'étude dont je vous ai parlé, mais je suis sûr qu'on va tous être d'accord pour ressentir la même émotion. On écoute cet extrait.
Mais oui, ça dépend de quelle heure il est. À 21h, c'est la gravité, vous savez, c'est la concentration. Mais à 23h, c'est la joie.
C'est le triomphe du Paris Saint-Germain. Car oui, je n'aurais jamais cru le dire aujourd'hui, mais Paris est magique, effectivement. Et donc, effectivement, on ressent nos émotions et on peut influencer justement notre morale grâce à la musique. Donc, écoutons de la musique.
Mais cette chanson de la Ligue des Champions, c'est incroyable. Merci Jimmy Mohamed, voilà pour les émotions des fans de foot ce matin. Et ça me fait penser, pardonnez-moi, à la violoncelliste, un jour on va l'inviter, la violoncelliste Claire Oppert, ça fait deux fois que je la cite à l'antenne cette semaine, qui joue pour les malades dans des hôpitaux, qui a théorisé ce qu'elle appelle le pansement Schubert. Et ça atténue la douleur et ça va dans le sens de ce que vous nous disiez. Quelques notes de musique ce matin, ça change un peu de la Ligue des Champions aussi, c'est vrai. Merci Jimmy Mohamed, c'est quelques notes de musique, notre santé tous les matins. C'est sur Europe 1, bien sûr, 8h41. Notre planète à présent avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Pour sensibiliser aux enjeux écologiques, Fanny, et aux enjeux économiques aussi autour de l'eau, une manifestation en ligne tente de faire bouger les choses.
Bah oui, c'est vrai qu'à cause de la crise sanitaire, manifester dans les rues, c'est pas forcément la meilleure des idées. Ainsi, à défaut d'envahir l'espace public, ce sont les réseaux sociaux qui sont pris d'assaut. Le but est de manifester des opinions en occupant l'espace à l'aide de slogans, d'arguments et de chiffres, et en spammant un maximum pour se faire entendre aussi fort que si des milliers de personnes défilaient dans les rues.
Et c'est comme ça, par exemple, que des associations militent pour défendre l'eau?
Oui, exactement. L'eau est actuellement défendue dans une manif en ligne. L'eau comme un bien commun qui ne devrait en aucun cas faire l'objet d'une privatisation. La page Eau Vote, avec le jeu de mots E-A-U, plus loin, vote, propose ainsi un tas de messages et d'infographies préparés facilement et partageables en ligne en quelques clics. À la clé, l'espoir d'une sensibilisation de masse, mais aussi une votation citoyenne ouverte jusqu'au 13 avril à partir des listes électorales sur la question suivante. Êtes-vous favorable à l'inscription dans la Constitution française du droit à l'eau et à l'assainissement, à protéger l'eau et à interdire son accaparement par les multinationales?
Alors, qu'est-ce qui motive la revendication de refaire de l'eau un bien commun?
Alors, ce qui est mis en avant dans cette manif en ligne, c'est cette volonté de renationaliser l'eau. Une régie publique favoriserait en effet une gestion durable de la ressource, un bon entretien des réseaux de distribution, un moindre recours à l'eau en bouteille et bien sûr les quantités démesurées de plastique qu'elle nécessite. Pour sortir de cette gestion insoutenable, la manif pour l'eau suggère la régie de l'eau par les collectivités, les usagers, les salariés et aussi les associations de protection de l'eau pour une utilisation plus parcimonieuse et équitable de cette ressource qui est l'objet de spéculation financière. Il faut dire que depuis les années 90, la France est l'un des leaders mondiaux de la privatisation de l'eau. 70% des Français reçoivent d'ailleurs l'eau d'un gestionnaire privé. Alors au-delà de l'aspect écologique, c'est aussi une question éthique qui se pose pour cette ressource qui, au même titre que l'air que l'on respire, ne devrait plus être traité comme une marchandise au profit des multinationales. C'est ce que les organisateurs de la manif en ligne pour l'eau mettent en avant en vous invitant à rejoindre le cortège sur les réseaux sociaux.
Fanny Agostini, Notre Planète. Merci Fanny et à demain sur Europe 1, bien sûr, 8h44. Dans quelques toutes petites secondes, la revue de presse, Nicolas Canteloup arrive, Julie est installée.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour les infos du jour.
Oui, bonjour ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1. Oui, l'actualité ce matin, c'est Emmanuel Macron qui annonce la suppression de l'ENA.
Eh oui.
Bah oui, super, nous on attend tous la réouverture des classes et lui il ferme carrément des écoles entières. Ah mais il est sur sa lancée de la semaine dernière quoi, apparemment. Et puis l'autre info, c'est bien sûr la perquisition chez le chef étoilé, Christophe Leroy, accusé d'avoir organisé des dîners clandestins chez Pierre-Jean Chalençon. Et le bilan de cette perquisition, Julie, est accablant. On l'a sous les yeux puisque les policiers n'ont rien trouvé. Rien du tout. Pas un bouquin de cuisine, pas une casserole. Pas un seul, et c'est le pire, pas un seul légume frais. Bon, en même temps, en voyant les photos de ces plats, on aurait dû s'en douter. Allez, en parlant de ces dîners, un des serveurs a témoigné.
Oui.
Un ministre à cheveux gris y aurait assisté. Il y aurait assisté, je parle bien sûr, au conditionnel. Du coup, oui. Franck Riester tout de suite a démenti, a dit « ce n'est pas moi ». Donc du coup, on a appris deux choses, que Franck Riester n'était pas à ce dîner et que Franck Riester était toujours au gouvernement. Allez, à toi Julie. À vous Julie,
merci,
pardon, on est à l'antenne. J'allais te tutoyer en direct.
Salut Mathieu.
Merci.
Les espaces numériques de travail, c'est-à-dire les cours en ligne pour les élèves, sont toujours victimes de pas mal de bugs informatiques. Jean-Michel Blanquer, vous avez dit que ces bugs avaient pour origine des attaques informatiques venues de l'étranger.
Oui, venu de l'étranger. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard. Écoutez, oui, nous avons été la cible d'attaques apparemment organisées par une puissance étrangère. Je vois dubitatif, mais écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que nous avons, vous allez voir.
Mm-hmm.
Voilà sur mon ordinateur, là. Par exemple, là, il y a une...
C'est Windows,
oui. Ouais, oui, non, parce qu'on a des bruitages qui sont pointus à la technique. Merci à Jean Léard, merci à toute l'équipe technique. Ils sont 18
bravo,
derrière les consoles
bravo,
pour trouver ce...
Bravo, Fabrice.
Pour trouver ce bruitage. Merci. Merci, Fabrice. Par exemple, alors là, ils ont double salaire. Europe 1, en plus, l'éducation nationale leur donne un petit billet. Alors, par exemple, là, il y a un exercice, donc, de revenons à nos moutons. Alors, c'est pas des moutons, c'est des bonbons. C'est un exercice de mathématiques.
Oui.
Pierre achète 3 bonbons à 2 euros. Combien a-t-il dépensé? Vous voyez, attention, je clique pour obtenir la solution. Et vous voyez? Vous voyez, ça affiche.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Vive Vladimir Poutine. Vous voyez, c'est quand même fou, c'est incroyable.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, alors?
Mais non, mais écoutez, le Kremlin, apparemment, le CIA et le Mossad sont jaloux de nos programmes scolaires. C'est une évidence. Vous savez, on a tellement d'avance sur eux. La Corée du Nord a compris que s'ils ne pirataient pas nos cours de grammaire de CM2, ils ne seraient jamais en mesure de rattraper le niveau de nos élèves.
Non, mais attendez, non, là, c'est de la mauvaise foi. Certes, il y a eu des cyberattaques, mais il y a aussi des difficultés de connexion parce que les serveurs français ont planté, hein, faut le dire. Vous n'avez pas anticipé qu'il y aurait autant de connexions sur ces serveurs.
Non, c'est pas qu'on n'a pas anticipé, Madame Julie, c'est la faute, tout est la faute du KGB.
Mais enfin, c'est pas la faute du KGB. En plus, vous avez accusé l'hébergeur OVH d'être à l'origine des troubles. Or, le programme de cours en ligne, il est hébergé par Amazon. Ben alors.
Bon, Ok. Ok, j'avoue. En fait, j'avais préparé un super plan pour organiser les connexions, mais il se trouve que ma grand-mère est morte ce jour-là.
Oui, bien sûr.
Et en plus, mon chien l'a mangé. Enfin, il a mangé mon plan, pas ma grand-mère.
Oui,
enfin,
d'accord.
Enfin, tout ça pour dire qu'on était super bien préparé, mais voilà, on n'a pas eu de chance. Voilà, c'est tout.
Comme vous dites, merci Jean-Michel Blanquer.
C'est ce que j'ai comme excuse. Voilà.
Le gouvernement a lancé une campagne pour inciter les Français à parler de leur détresse psychologique. Le numéro vert a été mis en place avec une cellule d'écoute. On va appeler ce numéro vert.
Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo.
Bonjour. Et bienvenue au numéro vert du gouvernement, afin que vous puissiez nous confier votre détresse psychologique. Si vous pleurez sous la douche en étant accroupi, tapez 1. Si vous souhaitez basculer dans l'alcoolisme, tapez 2. Si vous envisagez de vous droguer, tapez 3. Si vous voulez parler à un opérateur, dites « j'en peux plus ». Je vais me flinguer.
J'en peux plus, je vais me flinguer.
Ne quittez pas. Un conseiller en bonheur du gouvernement va prendre votre appel.
Conseiller en bonheur.
Se répandu demain matin, ça fera 4 lignes dans les journaux.
Oui, bonjour à toutes et à tous. SOS, détresse psychologique, Emmanuel, à votre écoute.
Oui, j'ai décidé de m'investir pour votre santé mentale, chers compatriotes. Que puis-je pour vous ? Parlez, allez-y, je vous expliquerai pourquoi vous avez tort de penser aussi négativement.
Bonjour, bonjour Monsieur le Président, c'est Julie à Europe 1.
Ah ! Bonjour quoi Madame Julie. Ah,
bonjour.
Oui, comme vous le voyez, vous le constatez, je mets la main à la pâte, bah peut-être
oui,
vous surpris.
Bah ouais.
Oui, oui, moi aussi je mets la main. Alors écoutez, j'en suis à, pour tout vous dire, je vais vous confier une chose, j'en suis à 50 appels ce matin.
Oh.
Que des gens qui pleurnichent. Mais je ne suis pas tout à fait surpris, c'est tellement français. Alors que ça fait quoi, un an qu'ils sont payés à ne rien faire avec nos subventions. Ce matin, je l'ai dit au dernier qui m'a appelé, mais si vous étiez à ma place, mon bon monsieur, là, vous auriez des raisons de vous plaindre, parce que moi j'en bats, vous savez. Moi, je bosse comme un chien. Mais moi, j'ai pas un numéro vert, hein, je peux juste gueuler sur Jean Castex si je veux me détendre, c'est tout.
Ben, ça doit bien leur remonter le moral. On va parler d'autre chose. M6 déclare avoir plusieurs sources, lui confirmant la présence d'au moins un membre du gouvernement au dîner clandestin de Pierre-Jean Chalençon. Une réaction, Monsieur le Président.
Écoutez, je vais vous dire une chose. Si un seul membre du gouvernement y était, mais il sera aussitôt viré. Soyez certaine que nous sommes en train d'ailleurs de recruter le fautif et il sera renvoyé.
De recruter le... Attendez, de recruter le fautif? Mais comment ça, recruter le fautif?
Merde, j'ai dit quoi? J'ai dit recruter?
Bah oui.
Si c'est un poids lourd, on va pas le dégager pour avoir mangé des lentilles chez Pierre-Jean Besançon, hein. On va mettre ça sur le dos d'un volontaire parmi les secrétaires d'État au PTT ou aux anciens combattants dont on n'a rien à foutre. Hein. On sera sympa avec lui. Attendez, rassurez-vous, s'il porte le chapeau pour rien, on lui filera un poste d'ambassadeur à Dubaï avec 15 000 balles par mois ou un truc du genre. Voilà. En plus, là-bas, il mangera mieux que chez machin. Hein.
Ben merci. Bonne journée, Monsieur le Président.
On est pragmatique, vous savez. En marche.
Édouard Philippe et Manuel Valls sortent un livre en même temps. La presse parle même du retour des ex-premiers ministres. Bonjour Manuel Valls.
Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard, Monsieur Cabrol, Monsieur Langer. Hola, ¿qué tal, el Béliardos? Oui, non, pardon, excusez-moi. Oui, je dois me reprogrammer. Je suis en France, sur notre beau territoire maintenant. Donc, habla Französisch. Oui, vous l'avez dit. Effectivement, vous l'avez noté et relevé, Madame Julie, en bonne observatrice, que vous êtes deux ex-premiers ministres, reviennent sur le devant, de la scène en même temps. Par contre, quelque chose m'interpelle. Il y a une chose que je ne saisis pas.
Ben, c'est quoi?
Bien, tout le monde demande à Édouard Philippe, s'il va se présenter à la présidentielle. Alors que moi, tout le monde me demande finalement rien, à part peut-être, tiens Manu, tu sors un bouquin, pourquoi tu repars pas à Barcelone, t'étais bien là-bas. Hein? Et puis, quand t'étais bien là-bas, eh bien, du coup, nous aussi, nous étions bien seuls ici.
Bon, c'est-à-dire, on sent bien que vous voulez revenir en politique, hein, mais on comprend pas bien où.
Écoutez, je crois, dans ce genre d'atermoiement, qu'il faut... procéder, oui, par élimination. Emmanuel Macron me déteste, ne nous voilons pas la face, parce que je le prenais de haut quand il était mon ministre de l'économie à l'époque. La droite, elle, me déteste aussi, parce que j'étais le Premier ministre de François Hollande, dont j'ai une forme de fierté d'avoir occupé ce poste. La gauche, elle, me déteste parce que j'ai appelé à voter Emmanuel Macron à la présidentielle, vous vous en souvenez. Ma ville d'Évry, elle, me déteste
aussi,
parce que je suis parti pour l'Espagne. Là où il me déteste parce que je suis parti pour la France, qui me déteste elle-même parce que.
Bon, écoutez, on va pas faire la liste de tous ceux qui vous détestent, hein, c'est trop long.
Je ne parle pas de ma vie patrimoniale.
Non, pas sur ce terrain-là. Non, parlons de ceux qui vous aiment, hein, c'est bien cela qui vous intéresse.
Oui, bien justement, c'est pour ça que je reviens, pour voir qui m'aime. Mais pour l'instant, je dois vous avouer que c'est calme.
Ah bon? Bah, du coup, ça va pas être pratique pour se faire élire quelque part, hein?
Si, dans un endroit où il n'y a personne, dans la Creuse par exemple, ou sur une île de l'Antarctique, ou au fan club des Forbans, ce ne sont pas les endroits déserts qui manquent sur notre beau territoire.
Fan club des Forbans, des Forbans, oh là là, des Forbans. Allez, autre chose, Pierre-Jean Chalençon, on y revient, a assuré qu'il n'organisait pas de dîner clandestin du tout. Pourtant, dans son émission, Jean-Marc Morandini a joint un des participants à ce dîner qui a démenti point par point la version de Pierre-Jean Chalençon. Bonjour Jean-Marc.
Oui. Bonjour Julie, il y avait longtemps, très heureux de te retrouver. Sur cette antenne. Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tout le monde. Ici le détective Jean-Marc Morandini, l'amoureux de la vérité, le justicier
dans la ville, le Batman de CNews. Vous me connaissez, je ne supporte pas l'injustice et le mensonge. J'aurais aimé être ministre de l'Intérieur et c'est pourquoi j'ai enquêté sur l'affaire de l'année, les dîners clandestins de Pierre-Jean Chalençon. Pierre-Jean Chalençon, c'est un peu comme si France Dimanche était devenu un être humain. Et on le connaît surtout pour avoir participé à l'émission de Sophie Davant l'après-midi sur France 2, où il y a des vieilles qui vendent des assiettes à des serres du 18e siècle.
Et vous avez eu au téléphone un participant à ces dîners qui témoigne. Ces dîners ont bien eu lieu, ils se terminent tard et ils coûtent 220 euros à régler en liquide.
Voilà, tout à fait. Alors, Pierre-Jean Chalençon a-t-il menti sur le contenu de ces dîners? Si des ministres sont amis avec un loser comme Pierre-Jean Chalençon, est-ce que c'est bon signe pour notre pays? Quelqu'un qui paye 220 euros pour des feuilles d'endives moisies avec des demi-tomates cerises dedans est-il compétent pour diriger la France? Pierre-Jean Chalençon a-t-il mangé Michel Polnareff? Ça expliquerait son apparence. Toutes ces questions et aucune réponse. C'est alors le grand bordel, le grand bordel des dîners.
Il a bien retrouvé la voix là, Nicolas.
Bravo,
hein, et le rire de
Nicolas Cantelou, la revue de presse. Nicolas et Julie, alors je vais saluer Sophie aussi, qui sur le hashtag Europe 1 me signale, parce que je n'avais même pas vu que c'est la Saint-Julie aujourd'hui.
Mais oui, 8 avril,
bonne fête,
hein, c'est ça. Ouais, oui.
Ben voilà, c'est dit. Grâce à Sophie.
Oh bah très bien.
Sur les réseaux sociaux,
merci.
Sur le hashtag Europe 1 en l'occurrence. 8h57 sur Europe 1. Philippe Vandel est là, Culture Média, c'est la matinée qui continue sur Europe 1 de 9h à 11h. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, dans notre info Média du jour, vous avez vu cette info Europe 1 qui est tombée ce matin très tôt. Le président Macron devrait annoncer la fin de l'ENA. Hasard de la programmation, il y a un documentaire absolument passionnant qui s'attache au cas de l'ENA. Le titre dit tout. Pourquoi tant de haine? Nous serons avec ses autrices dans l'émission. Jean-Luc Reichmann. Plein d'infos sur lui, il est tous les jours dans les 12 coups de midi, ça vous le savez, mais il a attrapé le Covid. Et en plus de ça, il y a ce soir la saison 8 de Léo Mattei qui redémarre. C'est Léo Mattei, c'est cette personne qui travaille à la brigade des mineurs. Et tout le thème, ce sera l'emprise avec des épisodes comme je n'avais jamais vu. Vous entendrez ça. Et puis enfin, Ivo et Georges, c'est le dernier livre de Patrick Rothman. Ivo et Georges, Georges c'est Georges Semprin, Ivo... C'est le nom originel d'Yves Montand et c'est l'histoire d'une amitié croisée. Ça va des camps de Buchenwald au dîner à la Maison Blanche.
Et c'est Culture Média de 9h à 11h sur Europe 1 avec Philippe Vandel et toute son équipe. Je vous souhaite une très très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.